Charles Delain, La marmite du diable. Autant jadis, il y avait sur la route de Valenciennes à Condé qu'un seul village, ou plutôt un hameau, le hameau d'Escopon. Tout le reste du pays était couvert par l'immense forêt charbonnière qui appartenait au seigneur, et bien que le bois mort n'y manquât point, les pauvres gens souffraient souvent dans leurs doigts quand hurlait le vent de bise. En ce temps-là vivait à Escopon un maricio ou maréchal ferrant qui avait nom Jean Hullos, mais qu'on appelait communément le cacheux, ce qui selon les uns veut dire le chasseur à cause qu'il aimait beaucoup à braconner, et selon d'autres le chercheur parce qu'il avait toujours l'air de chercher quelque chose. Or, un soir d'hiver, que le cacheux rôdait par la forêt sur le mont d'Anzin, il avisa au loin une lumière rougeâtre qui brillait à travers les arbres. Jean se dirigea de ce côté, car il gelait fort ce soir-là et les dents lui claquaient comme le bec des cigognes. Il arriva bientôt devant une hutte, regarda au travers de la porte et vit un grand feu qui flambait dans l'âtre. On eût dit qu'il y avait 10 lampes allumées, tant ce feu était clair et brillant, et pourtant il ne semblait fait ni de bois, ni de bourbe, ni de paille, ni de feuilles sèches, mais bien de grosses pierres noires qui brûlaient comme des tiges de colza. 3 hommes, 3 nains, tout noirs, les pieds à la tête, étaient accroupis autour du foyer. Un autre, à la place de Jean, se serait enfilé bien vite. Mais le maricio avait la poigne comme son étau et ne craignait ni vent ni orage. Il était seulement étonné et pensait que ces pierres lui viendraient bien à point et à lui qui, souvent, avait tant de peine à chauffer le gros fer. Il tira sa pipe et, en trouvant la porte, il dit, selon l'usage, peut-on l'allumer, nos gens ? L'un des 3 nains lui fit signe d'entrer, et tout en bourrant sa bourraine, Jean put observer ses hôtes. Ils étaient complètement nus et velus comme des ours. Qu'est-ce que vous voulez donc là, nos maîtres, sans être trop curieux ? Demanda Jean Hullos. Les 3 nains se mirent à ricaner et à grimacer, après quoi le premier dit aux autres, en désignant le sol, « Si on le savait, qu'il y a là-dessous, au fond du tréfonds, des trésors plus précieux que l'or et les diamants !» Puis il ajouta, « Quand le chat y est pas, les souris dansent !» Et il fit une grimace accompagnée d'un ricanement. « Oh, si on le savait, dit le second, qu'un jour les entrailles de la terre brûleront au soleil, les voitures marcheront sans chevaux, les vaisseaux vogueront sans voile, et les lampes brilleront sans huile. » Puis il ajouta, « Quand le soleil est couché, toutes bêtes sont à l'ombre. » Et comme son voisin, il couronna sa phrase par une grimace et par un ricanement. « Oh, si on le savait, dit le troisième en faisant les cornes, que quand les hommes pilleront ses provisions petit à petit, son règne finira dans le monde et qu'un jour peut-être sa marmite sera renversée. »« Mais qui ça? De qui parlez-vous ? » s'écria Jean. Mais soudain retentit un coup de sifflet qui paraissait venir du tréfonds. Les 3 nains se levèrent, rapides comme des écureuils, et disparurent par un grand trou que le cacheux n'avait point remarqué. « Oh non, d'une pipe, j'en aurai le cœur net, » dit-il, et il s'élança derrière eux dans un puits sans fond. Jean Hullos descendit par une échelle assez raide, et au bout d'une heure, il arriva dans une sorte de cave ronde, d'où partaient de longues galeries basses comme les raies d'une roue portant du moyeu. Des lumières innombrables allaient et venaient dans ces galeries. Le cacheux reconnut que c'était autant de nains qui, le front éclairé par des langues de feu, s'occupaient à une besogne étrange. Les uns, accroupis ou couchés sur le flanc, enlevaient à coups de pique d'énormes blocs de pierre noire. D'autres les chargeaient sur le petit chariot que d'autres, enfin, traînaient par les galeries. Ils remplissaient leurs tâches avec une adresse et une agilité incomparables, riant, criant, gesticulant et gambadant comme une troupe de singes. « Mais que faites-vous donc là, mes gars ?» leur demanda Jean Hulos. « Ah, si on le savait, dit l'un d'eux, que c'est ici qu'on lui fournit de quoi les faire cuire. » « Oh quoi, mais qui donc ?» s'écria le cacheux. « Ah, si on le savait, si on le savait !» reprirent en cœur ses compagnons. « Oh non, d'une pipe, on le saura » fit-il. Et il enfila une des galeries à la suite de quelques petits chariots. La galerie débouchait sur une vaste plaine où s'élevaient encore d'énormes tas de pierres noires. Près de là coulait un fleuve aux eaux jaunes et vertes que traversaient de larges barques toutes chargées de ces pierres. Jean grimpa sur un des toits pour voir de plus loin, et de l'autre côté du fleuve, il aperçut, à travers un épais nuage de fumée, une immense chaudière où il parut, au spectacle épouvantable, qu'on mettait bouillir des hommes semblables à lui. « Mais il va se faire arder, il va se faire arder !» crièrent les nains, et ils le forcèrent à descendre. Alors retentit un second coup de sifflet qui se répéta de galeries en galeries. Tous les ouvriers jetèrent leurs outils, s'assirent en rond et chargèrent leurs pipes. Jean comprit que c'était l'heure du repas et fit tabac avec eux. On apporta de grands blocs de bocs de bière écumante. Les noirs ouvriers en offrirent à leur hôte. Un vrai flamand ne refuse jamais un verre de bière, fut-il offert par le diable en personne. Hulos accepta sans barguigner. « La bonne santé, mon maître, dit-il, et il vida son verre. Il ne craignait qu'une chose, c'est que la bière n'eût un goût de brûlé. Oh, elle était au contraire fraîche et piquante, aussi bonne que la bière des Scopons. Cela fit que Jean vida tant et tant de fois son verre, qu'il fut trop d'un coup et s'endormit. Était-ce l'effet du houblon ou de quelque autre cause? Le cacheux eut un rêve. Mais ce fut un rêve bien extraordinaire. Devant lui bouillait la grande marmite, et sur elle était penché un géant cornu, ayant le mufle d'un bouc, les yeux d'un chat-huant et les ailes d'une immense chauve-souris. Armé d'une longue cuillère, le géant ailé touillait la marmite. Lorsque lui, Jean Hulos, s'approcha intrépidement, et avec le seau de sa forge, arrosa les pierres noires qui brûlaient au-dessous. Elles s'éteignirent en fumant, mais le géant saisit un énorme soufflet et souffla le feu avec rage. Puis l'infernal cuisinier et sa marmite s'effacèrent peu à peu, et Jean ne vit plus que deux yeux qui brillaient dans l'ombre, pareils au four d'une verrerie. Alors il ouït une voix qui disait « Pas encore, pas encore, on ne touche pas encore à la marmite !» Il lui sembla qu'on renfermait dans un cercueil de plomb et qu'il s'y endormait d'un sommeil de plomb pour toute éternité. Quand le cacheux se réveilla, il se retrouva dans la forêt. La lune pâlissait, le jour commençait à poindre, mais les oiseaux ne chantaient pas vu qu'on était en hiver. Il regarda autour de lui, se frotta les yeux et chercha à mettre de l'ordre dans sa tête. « Oh, drôle de rêve !» dit-il en s'étirant. « Je me sens tout rompu. Mais quelle idée aussi de dormir au soleil des bécasses par un froid gelé un boudin sur le gris !» Bref, bon, là, La Jeanne doit être inquiète. Il se leva pour regagner son logis. Chose singulière, il ne reconnaissait point l'endroit où il se trouvait. Là où la veille s'épaississaient des fourrés, il voyait maintenant des clairières et la forêt lui semblait en général beaucoup moins drue. Ne comprenant rien à ces changements, il s'orienta comme il l'eût fait en pays étranger et descendit la montagne d'un pas pénible et mal assuré. Au bout d'une demi-heure, il rencontra un village. Cela le surprit de plus en plus, car Escopon, comme chacun sait, est situé à 1 heure du mont Arzin. Il vit venir de loin un berger avec ses moutons. Le cacheux connaissait tous les bergers d'alentour, mais il ne reconnut point celui-là. « Mais comment appelez-vous cet endroit ?» lui demanda-t-il. « Ben, ici, bon vieux père, c'est Bruel, » lui répondit le berger dans un jargon qui ne semblait point tout à fait celui du pays. Jean ne s'expliquait pas non plus pourquoi cet homme l'appelait vieux père, lui qui n'avait point encore 30 ans. Ben, « il me semblait bien, » reprit-il, « que ce n'était pas Escopon. » « Oh, mais Escopon, c'est le clocher que vous apercevez tout là-bas, à 1/2 lieue. » Le cacheux marcha encore et parvint à Escopon. Il ne reconnut pas une seule des maisons du village, à l'exception de l'église, qui était toute crevassée et s'en allait en ruine. On en bâtissait une autre plus grande à côté. « Est-ce que mon rêve serait déjà réalisé ?» se disait-il. Mais les voitures qu'il avait rencontrées ne marchaient pas sans chevaux et il ne voyait nulle part les pierres noires qu'il avait vues flamber au fond de la terre. Il arriva à sa chaumière, ou plutôt à l'endroit qu'elle occupait. À sa place s'élevait une jolie maisonnette ombragée par un chêne. Il se rappela que 6 ans auparavant, lors de la naissance de sa fille, il avait planté un gland dans son courtil. Par un phénomène incompréhensible, en 6 mois, le gland était devenu un chêne énorme. Jean Hulos ne savait s'il rêvait, ni s'il avait rêvé, s'il revenait du fond de la terre et si réellement il avait eu affaire à Satan en personne. Il entra dans la maisonnette et vit une femme qui tenait un enfant dans ses bras. Mais ce n'était ni sa femme ni sa fille. Que demandez-vous, l'homme de Dieu? Nous n'avons rien à donner, dit la jeune femme. Mais je ne demande ni une aumône, demande Jeanne. Quelle Jeanne? Jeanne du Cacheux, autrement dit Jean Hulot. Je n'ai jamais ouï prononcer ce nom-là. Ben, c'est pourtant bien ici, Escopon. Ici même. Jean se laissa choir sur une chaise en riant. Ah, mais c'est certain, je deviens fou. À ce cri, la femme eut peur. Allons, sortez, lui dit-elle. « Vous n'êtes mis déjà si plaisant avec votre barbe du dos, vous avez tout l'air du juif errant. » Jean porta la main à son manteau et s'aperçut qu'en effet, il avait une longue large blanche. Un miroulet ou petit miroir était accroché à la cheminée. Il s'y regarda et poussa un cri de désespoir. Il prit l'almanach et jeta un coup d'œil et retomba sur sa chaise. Évanoui. Le malheureux venait de reconnaître qu'il avait vieilli de 100 ans en une nuit. La femme alla dire à ses voisins que le juif errant était dans la maison. Les voisines accoururent. Cependant, le cacheux revenait à lui. Il mit sa tête dans ses mains et resta là comme un homme anéanti. « Mais d'où êtes-vous ? » lui demandèrent les femmes. « De l'Escopon ? » « Y a-t-il longtemps que vous en êtes sorti ? » Ben, une nuit, et le village et moi, nous avons vieilli de 100 ans. Et qu'avez-vous fait durant cette nuit-là? Je suis allé au fond de la terre. Au fond de la terre? Et qui avez-vous vu? La marmite du diable. Oh, c'est donc un sorcier, fit une voix. À ces mots, les femmes s'écartèrent. La curiosité fit place à la crainte et bientôt à la terreur. Allez, au sorcier, au sorcier! Et sur cet entroupement, tout le village. Le mailleur vint comme les autres, et il eut beaucoup de peine à tirer du vieillard les mains de la foule qui voulait le lapider. Il le conduisit lui-même à Valenciennes sous l'escorte du garde champêtre. Hélios fut enfermé dans la prison pour être jugé le lendemain. Mais il advint que ce jour-là, le grand prévôt mourut subitement. Le procès fut remis à huitaine. Quand le Maricio parut devant le tribunal, le pauvre vieux était si courbé par l'âge et la souffrance qu'il n'avait point la force de lever la tête. Est-il vrai que vous soyez allé au fond de la terre et que vous ayez vu la marmite du diable? Lui demanda le nouveau juge. Ben, cela est vrai, répondit le cacheux. Et qui avez-vous vu encore? Oh, le trésor plus précieux que l'or et les diamants. Quels sont ces trésors? Des pierres qui brûlent et qui feront qu'un jour les voitures marcheront sans chevaux, les vaisseaux vogueront sans voile et les lampes éclaireront sans huile. Mais il n'y a que la magie pour opérer de pareils prodiges. Cet homme est un sorcier. Le juge prononça ces paroles avec un tel accent de haine que Jean leva les yeux. Le grand prévôt ressemblait trait par trait, sauf la taille, à l'effrayant personnage que Hulos avait vu sous la terre. Seulement, il avait caché ses cornes sous son bonnet, ses ailes de chauve-souris sous sa robe, son mufle sous une barbe touffue et ses yeux de chat-huant sous des lunettes. Les regards du juge et de l'accusé se croisèrent. Les yeux du juge se dilatèrent comme s'il avait fait nuit. À l'aspect de ces deux flammes, le cacheux sentit qu'il était perdu. Le prévôt parla ensuite quelque temps. De tout son discours, Jean n'ouït que ces mots. Qu'on mène demain cet homme au supplice. Et Jean fut reconduit en prison au milieu des imprécations de la foule. Le lendemain, on vint le prendre pour le mener au bûcher sur la Grand Place. C'était un samedi, jour de marché. Il y avait beaucoup de paysannes des environs qui vendaient du beurre et des œufs et qui buvaient de la blanche bière dans les cabarets. Jean parut, la corde au cou, et se traînant à peine. Jamais on n'avait vu un si vieil homme marcher au supplice, et les femmes ne pouvaient se tenir de le plaindre. Quant à lui, il était résigné. Après tout ce qu'il avait souffert depuis le soir où sa fatale curiosité l'avait conduit au bord de la terre, il aimait autant mourir que vivre. Pourtant, ce n'était point sans amertume qu'il envisageait son sort. Il tenait en ses mains un secret qui pouvait faire le bonheur du monde, et ce secret, il l'emportait avec lui. Tout à coup, parmi la foule rangée sur son passage, il aperçut une jeune paysanne qui allaitait un enfant. L'infortuné jeta un cri. « Jeanne, ma chère Jeanne !» Et avant qu'on pût l'arrêter, il courut la prendre dans ses bras. Il couvrait de baisers la mère et l'enfant, et ses larmes coulaient le long de sa barbe blanche. La mère et l'enfant ressemblaient si bien à sa femme et à sa fille que Jean oubliait que toutes deux devaient être mortes depuis longtemps. La jeune paysanne se sentait prise de pitié pour le vieillard et se laissait embrasser en pleurant elle-même. « Te souviens-tu de Jean Hulos, Jean le Cacheux ?» lui dit-il. « Jean le Cacheux. Ah, j'ai souvent oui, ma grand-mère, prononcé ce nom, qui était celui de son grand-père. Mais c'est moi, moi qui suis Jean le Cacheux. » Une vieille femme de plus de 80 ans s'approcha alors. « Si vous vous appelez Jean Hulos, autrement dit Jean le Cacheux, je suis votre petite fille et celle-ci est la fille de votre arrière-petite fille. » Et la foule cria « Miracle !» car jamais on ne vit si merveilleuse ressemblance que celle des deux vieillards. Jean pressa sa petite fille sur son cœur. « Tu es donc, disait-il, l'enfant de ma pauvre Jeannette que j'ai laissée au sein de sa mère. Hélas, où est-elle, ma jolie petite fille ? Ben, elle est morte il y a 20 ans. Elle en avait 80. » Tout le monde pleurait en écoutant ces paroles. « Mais d'où vient que vous n'habitez plus Escopon ?» reprit Jean Hulos. Ma grand-mère m'a souvent conté qu'après que mon grand-père eut disparu, elle avait quitté son village pour aller s'établir à Aulois, de l'autre côté de Valenciennes. « Au bûcher !» cria une voix, la voix du juge. Mais les femmes avaient pris parti pour le condamner, et elles se prirent à parler toutes à la fois. « Mais c'est pas un sorcier, c'est Jean le Cacheux, le grand-père de la Jeanneton, et on le tuera plutôt que de le faire mourir. »« Mais ce vieux, c'est la place où sont enfouis les trésors, » disaient les hommes de leur côté. Et ils le délivrèrent des mains de ses gardes. « Écoutez-moi, brave Jean, » dit alors Jean Hulos, « et vous ne mourrez plus de froid durant l'hiver. » Sous le mont d'Anzin gisent d'énormes tas de pierres noires qui brûlent comme des tiges de colza. Un jour viendra où, grâce à ces pierres, les voitures marcheront sans chevaux, les vaisseaux vogueront sans voile et les hommes vivront en joie et en prospérité. Et tu voulais, juge maudit, nous priver de tous ces bienfaits. Au bûcher, le juge, au bûcher, le scélérat. Et la foule saisit le grand prévôt, le garrotta, le fit monter sur le bûcher et y mit le feu. Mais voilà que soudain le jour s'obscurcit. Une épaisse nuée descendit sur la flamme et on vit le juge se transformer en une gigantesque chauve-souris qui prit son vol, plana quelque temps au-dessus de la ville, s'abattit sur le beffroi, y jeta 3 cris sinistres et fila droit vers le mont d'Anzin. Le lendemain, une 20aine d'hommes résolus, guidés par Hulos, se rendirent avec pics et pioches au mont d'Anzin. Ils n'y trouvèrent ni hutte, ni trou, ni échelle. Puis ils creusèrent à l'endroit que Jean leur indiqua et découvrirent le charbon de terre qu'ils appelèrent houille du nom de Hulos. Ils y creusèrent un puits et amenèrent par là au soleil les entrailles du globe. Le diable, pour se venger, allume quelquefois dans les mines de houille un feu qu'on nomme le feu grisou. Mais il a beau faire, les ouvriers continuent de piller intrépidement ses provisions et d'en tirer la joie et la prospérité du monde.